Intermède 5. Axiès, le recenseur. Axiès le recenseur gémissait, étendu sur le dos, le crâne parcouru d'élancements douloureux. Il ouvrit les yeux et les baissa le long de son corps. Il était nu. Malédiction, se dit-il. Eh bien, mieux valait s'assurer qu'il n'était pas blessé trop sérieusement. Ses orteils étaient tournés vers le ciel. Les ongles étaient d'un bleu foncé, ce qui n'était pas chose rare pour un Émien comme lui. Il tenta de les remuer et, à sa grande satisfaction, ils lui obéirent. « Bon, c'est déjà ça », se dit-il en laissant retomber sa tête sur le sol. Il y eut un bruit humide lorsqu'il toucha quelque chose de mou, sans doute un détritus en train de pourrir. Oui, c'était bien ça. Il sentait à présent son odeur âcre et fétide. Il se concentra sur son nez, sculptant son corps de manière à ne plus percevoir d'odeur. « Ah !» se dit-il, « c'est beaucoup mieux. » Maintenant, s'il pouvait chasser ses élancements dans sa tête, franchement, fallait-il vraiment que le soleil soit aussi aveuglant au-dessus de lui? Il ferma les yeux. « Vous êtes toujours dans ma ruelle ?» dit une voix bourrue derrière lui. C'était cette voix qui l'avait réveillé. « Je ne vais plus tarder à évacuer les lieux, » promit Axiès. « Vous me devez un loyer, une nuit de sommeil. » « Dans une ruelle ?»« La plus belle ruelle de Cassitor. » « Ah, c'est donc là que je me trouve. Excellent. » Quelques secondes de concentration chassèrent enfin son mal de tête. Il ouvrit les yeux et trouva cette fois la lumière du soleil très agréable. Des murs de briques s'élevaient vers le ciel sur sa gauche et sur sa droite, recouverts d'un lichen rouge coriace. De petits tas de tubercules pourrissants étaient éparpillés autour de lui. Non, pas éparpillés. Ils semblaient avoir été soigneusement disposés. Curieux, c'était sans doute la source des odeurs qu'il avait perçues un peu plus tôt. Mieux valait garder son odorat inhibé. Il se redressa, s'étira, inspecta ses muscles. Tout semblait en bon état de marche, malgré quelques ecchymoses. Il s'en occuperait sous peu. « Donc, dit-il en se retournant, vous n'auriez pas un pantalon en trop à tout hasard. » La voix se révéla appartenir à un homme à la barbe en bataille, assis sur une caisse au bout de la ruelle. Axiès ne le reconnut pas, pas davantage que le lieu. Ce n'était pas surprenant, sachant qu'on l'avait battu, volé et laissé pour mort, une fois de plus. « Ce que je ne ferai pas au nom de l'érudition, » songea-t-il avec un soupir. La mémoire lui revenait. Cassitor était une grande ville iriale, la deuxième plus grande après Râle et Lorim. Il était venu ici de son plein gré. Il s'était également saoulé de son plein gré. Peut-être gagnerait-il à mieux choisir ses compagnons de beuverie. « Je vais partir du principe que vous n'avez pas de pantalon en trop, » dit Axiès en se levant et en inspectant les tatouages sur son bras. « Et si vous en aviez, je vous suggérerais de le porter vous-même. Est-ce un sac de lavis que vous portez ?»« Vous me devez un loyer, » grommela l'homme, « et un paiement pour avoir détruit le temple du dieu du Nord. »«
Curieux, »
dit Axiès en regardant par-dessus son épaule en direction de l'entrée de la ruelle. Au-delà se trouvait une rue animée. Les braves gens de Cassitor ne réagiraient sans doute pas très bien à sa nudité. « Je ne me rappelle pas avoir détruit de temple. En règle générale, je suis plutôt conscient de ces choses-là. »«
Vous avez détruit la moitié de la rue de Apron, » dit le mendiant, « et un certain nombre de maisons. Je vais laisser couler. »«
Extrêmement gentil de votre part. » »«
Ils ont été méchants ces derniers temps. »
Axiès fronça les sourcils et se retourna vers le mendiant. Il suivit son regard en direction du sol. Les tas de légumes pourrissants avaient été disposés selon un arrangement bien précis, comme une ville.
« Ah !» dit Axiès en déplaçant son pied, qui était posé sur un petit carré de légumes.
« C'était une boulangerie, » dit le mendiant.
« Affreusement désolé. »
« La famille était partie. »
« Quel soulagement !»
« Ils étaient en train de faire leur dévotion au temple. »«
Celui que j'ai... »
« Écrasé avec votre tête ?»«
Oui. »« Je suis persuadé que vous serez bon avec leurs âmes. »«
Le mendiant le regarda en plissant les yeux.
« J'essaie toujours de décider comment vous classer. Êtes-vous un néantifère ou un héros ?»«
Un néantifère, je le crains, » répondit Axiès. « Après tout, j'ai détruit un temple. » Le regard du mendiant se fit encore plus méfiant.
« Seul le tissu sacré peut me bannir, » poursuivit Axiès. « Et comme vous ne...
Dites-moi, qu'est-ce que vous tenez là ?»
Le mendiant baissa les yeux vers sa main qui touchait l'une des couvertures miteuses recouvrant l'une de ses caisses non moins miteuses. Il était perché au-dessus comme... Eh bien comme un dieu, baissant les yeux vers son peuple.
« Pauvre crétin !» songea Axiès. Il était vraiment temps de se remettre en route. Pas question d'attirer de malchance sur ce pauvre diable à la cervelle embrouillée.
Le mendiant tira la couverture. Axiès recula, main tendue, ce qui soutira au mendiant un rictus édenté. Il bondit au bas de sa caisse, levant la couverture comme pour s'en protéger. Axiès recula. Le mendiant gloussa de rire et lui jeta la couverture. Axiès la saisit en plein air et brandit le poing en direction du mendiant. Puis, il se retira de la ruelle tout en saignant la taille de la couverture.
« Et ce fut alors, » dit le mendiant derrière lui, « que la bête immonde fut chassée. »
« Et ce fut alors, » dit Axiès en fixant la couverture en place, « que la bête immonde évita l'emprisonnement pour attentat à la pudeur. »
Les Iriales étaient très pointilleux quant au respect de leur loi sur la chasteté. Ils l'étaient sur beaucoup de choses. Bien sûr, on pouvait en dire autant de la plupart des gens, la seule différence étant les sujets sur lesquels ils l'étaient. Axiès le recenseur s'attira un grand nombre de regards insistants. Pas à cause de ses vêtements peu conventionnels. Iri se trouvait à la bordure nord-ouest de Rochard, dont le climat était plus chaud que celui d'endroits comme Aletkar ou même Azir. Un grand nombre de ces hommes iriales aux cheveux dorés ne portaient que des pagnes, et leur peau était peinte de couleurs et de motifs divers. Même les tatouages d'Axiès n'avaient rien de si remarquable ici. Peut-être attirait-il l'attention à cause de ses ongles bleus et de ses yeux limpides d'un bleu soutenu. Les émiens, même ceux de Sia, étaient rares. Ou peut-être était-ce parce qu'il projetait une ombre dans le mauvais sens, vers la lumière, plutôt qu'à partir d'elle. Elle était petite, et les ombres n'étaient pas longues, avec le soleil si haut dans le ciel. Mais ceux qui s'en apercevaient marmonnaient ou s'écartaient d'un bond. Ils avaient sans doute entendu parler des gens comme lui. Il n'y avait pas si longtemps que sa patrie avait été détruite, juste assez longtemps pour que des récits et des légendes aient infiltré la culture générale de la plupart des peuples. Peut-être quelqu'un d'important s'offusquerait-il en le voyant et le ferait-il amener devant un magistrat local. Ce ne serait pas la première fois. Il avait appris longtemps auparavant à ne pas s'en soucier. Quand la malédiction de l'espèce vous poursuivait, vous appreniez à prendre les choses comme elles venaient. Il se mit à siffler tout bas pour lui-même, inspectant ses tatouages et ignorant les passants à ses observateurs pour le regarder bouche bée.
« Je me rappelle avoir écrit quelque chose quelque part », songea-t-il tout en étudiant son poignet avant de retourner son bras pour tenter de voir s'il y avait de nouveaux tatouages à l'arrière. Comme tous les émiens, il pouvait changer à volonté la couleur et les marques de sa peau. C'était bien pratique, car lorsqu'on se faisait régulièrement voler tout ce qu'on possédait, il était sacrément difficile de tenir un carnet de notes. Ainsi donc, il conservait ses notes sur sa peau, du moins jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver en lieu sûr et les retranscrire. Avec un peu de chance, il ne s'était pas saoulé assez pour avoir écrit ses observations dans un endroit inconvenant. Il l'avait fait à une occasion, et il n'avait pu les relire qu'à l'aide de deux miroirs et d'un serviteur de bain extrêmement gêné. « Ah !» se dit-il en découvrant une nouvelle entrée près du creux de son coude gauche. Il la lut tant bien que mal tout en descendant la pente d'un pas traînant.
« Et c'est réussi !» aperçut les sprènes qui n'apparaissent que lorsqu'on est extrêmement saoul, apparaissent sous forme de petites bulles marron qui s'accrochent aux objets proches. « Sera peut-être nécessaire de faire un nouvel essai pour prouver qu'il n'était pas qu'une hallucination due à l'alcool. »
« Joli, » dit-il tout haut.
« Très joli. Je me demande comment je devrais les appeler. »
Il avait entendu raconter qu'on les appelait sprènes de bière, mais ça semblait idiot. Sprènes d'ébriété ? Non, trop compliqué. Sprènes d'alcool ?
Il éprouva une bouffée d'exaltation. Il traquait ce genre de spren depuis des années. S'il se révélait exister pour de bon, ce serait une sacrée victoire. Pourquoi n'apparaissait-il qu'à Iri? Et pourquoi si rarement? Il avait pris des cuites absurdes une bonne dizaine de fois, mais ne les avait trouvées qu'à une reprise, à supposer toutefois qu'il les ait bel et bien vues. Les spren pouvaient cependant se montrer extrêmement insaisissables. Parfois, même les espèces les plus communes, les spren de flamme par exemple, refusaient d'apparaître, ce qui les rendait particulièrement frustrants pour un homme qui consacrait sa vie à observer, à cataloguer et à étudier tous les types de spren de Rochard. Il continua à siffler tout en traversant la ville en direction des quais. Autour de lui circulaient de grands nombres d'iriales aux cheveux dorés. Leurs cheveux reflétaient leur lignée, comme les cheveux noirs des alétis. Plus votre sang était pur, plus vous aviez de mèches dorées. Et ils n'étaient pas simplement blonds, mais réellement dorés, brillants au soleil. Il aimait beaucoup les iriales. Ils étaient infiniment moins pudibonds que les peuples vorins de l'Est, et ils se livraient rarement aux bagarres ou aux chamailleries, ce qui facilitait d'autant la chasse aux sprennes, même s'il y avait aussi, bien sûr, des sprennes que l'on ne trouvait que pendant la guerre. Un groupe de personnes s'était réuni sur les quais. « Ah !» se dit-il, « parfait, je n'arrive pas trop tard. » La plupart s'assemblaient sur une estrade d'observation construite à cette fin. Axiès se trouva un endroit où se tenir, ajusta sa couverture sacrée et s'appuya en arrière contre la rambarde pour patienter. Il n'attendit pas longtemps. À 7h46 du matin précisément, les habitants pouvaient s'en servir pour régler leurs horloges. Un énorme spren outre-mer jaillit des eaux de la crique. Il était translucide, et bien qu'il semble projeter des vagues en s'élevant, c'était une illusion. La véritable surface de la crique était immobile. Il prend la forme d'un immense jet d'eau, songea Axiès, créant un tatouage le long d'une partie dégagée de sa jambe pour y griffonner ces mots. Le cœur est d'un bleu très foncé, comme les profondeurs de l'océan, bien que les bords externes soient d'une nuance plus claire. À en juger par les mâts des navires alentour, je dirais que le spren a grandi jusqu'à mesurer au moins 30 mètres. L'un des plus grands que j'ai jamais vu. Sur la colonne poussèrent 4 longs bras qui redescendirent en faisant le tour de la crique, formant des doigts et des pouces. Ils atterrirent sur des socles dorés placés là par les gens de la ville. Le spren apparaissait chaque jour à la même heure, sans faute. Il lui donnait un nom, Cousy-Sèche, le protecteur. Certains le vénéraient comme un dieu. La plupart l'acceptaient simplement comme faisant partie de la ville. Il était unique. L'un des rares types de spren de sa connaissance qui ne semblait compter qu'un seul membre. « Mais de quel genre de spren s'agit-il ? » écrivit Axiès, fasciné. « Il s'est modelé un visage, tourné vers l'est, droit vers l'origine. Ce visage change à une vitesse stupéfiante. Différents visages humains apparaissent au bout de son encolure courtaude, l'un après l'autre, si vite qu'ils en deviennent flous. » Le spectacle dura 10 bonnes minutes. Les visages se répétaient-ils jamais? Ils changeaient si vite qu'ils ne pouvaient s'en assurer. Certains semblaient de sexe masculin, d'autres féminin. Quand le spectacle prit fin, Cousy-Sèche se retira dans la crique, envoyant de nouveau des vagues fantômes. Axiès se sentit vidé, comme si on avait aspiré quelque chose en lui. On racontait que c'était une réaction courante. L'imaginait-il parce qu'il s'y attendait? Ou était-ce réel? Tandis qu'il y réfléchissait, un gosse des rues passa près de lui, agrippa son pagne et le lui arracha en riant. Il le jeta à des amis et ils s'éloignèrent en courant. Axiès secoua la tête. « Quelle barbe !» dit-il tandis que les gens commençaient à hoqueter et à marmonner autour de lui. « Il y a des gardes près d'ici, je suppose. Ah oui, 4. Magnifique. » Il s'approchait déjà de lui à grands pas, l'expression sévère, leurs cheveux dorés tombant sur leurs épaules. « Eh bien, » dit-il pour lui-même, griffonnant une dernière note alors même que l'un des gardes le saisissait par l'épaule. « On dirait qu'on m'offre une autre occasion de chercher des sprennes de captivité. » C'était curieux que ceux-là lui aient échappé pendant toutes ces années, malgré ses nombreuses incarcérations. Il commençait à les considérer comme mythologiques. Les gardes l'entraînèrent vers les cachots de la ville, mais ils s'en moquaient. Deux nouveaux spreads en autant de jours, à ce rythme, il ne lui faudrait peut-être que quelques siècles pour conclure ses recherches. Formidable, en effet. Il se remit à siffler pour lui-même.